Ivanhoé, chapitre 33. Cominius. Quelle nouvelle nous donnerez-vous de Titus Larsius? Que fait-il?
Coriolan. Occupé à remplir les devoirs de sa place, condamnant les uns à la mort, les autres à l'exil, remettant la rançon de celui-ci, plaignant celui-là, ou lui pardonnant, tandis qu'il menace le reste. Shakespeare. Coriolan. Les traits et la contenance du prieur prisonnier offraient un mélange bizarre d'orgueil offensé, de fatuité comprimée et d'une terreur bien visible.
« Eh bien, mes maîtres, » dit-il d'un ton qui participait de ces trois émotions,
« quelle conduite tenez-vous? Êtes-vous des Turcs ou des chrétiens pour porter ainsi la main sur un membre de l'Église? Savez-vous ce que c'est que Manus imponere in servos domini? Vous avez pillé mes malles, déchiré mon rochet bordé de dentelles qui était digne d'un cardinal. Tout autre à ma place vous aurait déjà foudroyé par son excommunique à Beauvos. Mais je suis doux et clément. Et si vous me rendez mes palefrois et mes malles, si vous remettez en liberté les frères qui m'accompagnaient, si vous envoyez promptement 100 pièces d'argent pour faire dire des messes au maître autel de l'abbaye de Jorvaux, et si vous faites vœu de ne point manger de venaison d'ici à la Pentecôte prochaine, il est possible que vous n'entendiez point parler de cette incartade.
Vénérable pasteur, dit le chef des Outlaws, ce serait avec un véritable chagrin que j'apprendrais qu'aucun homme de ma troupe vous ait fait éprouver un traitement qui lui attire votre réprimande paternelle.
Traitement, répliqua le prieur, encouragé par ce ton de douceur. Ils m'ont traité comme on ne traiterait pas un chien de bonne race, encore moins un chrétien, bien moins encore un prêtre, et moins que tout cela, le vénérable prieur de la sainte communauté de Jorvaux. Vous avez ici un profane et ivrogne de ménestrel, appelé Alan Adel, nebulo quidam, qui m'a menacé de punition corporelle, que dis-je, de mort même, si je ne payais comptant 400 couronnes pour ma rançon, indépendamment de tout mon bagage qu'il m'a volé, de chaînes d'or, de bagues, de bijoux, dont je ne saurais vous dire la valeur.
Sans compter tout ce qui a été brisé et gâté par leurs mains rudes et grossières, entre autres ma poudrière et mes pinces d'argent.
Il n'est pas possible qu'Alan Adel ait traité de la sorte un personnage aussi respectable, répliqua le capitaine.
Cela est pourtant aussi vrai que l'évangile de saint Nicodème. Il m'a menacé, en faisant les jurements les plus affreux dans son langage du Nord, de me pendre à l'arbre le plus élevé de la forêt.
Est-il vrai, mon révérend père?
En ce cas, vous ne sauriez mieux faire que de vous soumettre, car il n'y a pas d'homme plus exact qu'Alan Adel dans l'accomplissement de ses promesses.
« Vous voulez plaisanter ?»
dit le prieur consterné et déguisant sa terreur sous un rire forcé.
« C'est bien, j'aime beaucoup la plaisanterie. Mais lorsqu'elle a duré toute la nuit, il est temps de reprendre son sérieux le lendemain matin.
Aussi parlais-je non moins sérieusement qu'un confesseur. Il faut que vous payiez une bonne rançon, sire prieur, car autrement les religieux de votre couvent pourront bientôt procéder à une nouvelle élection. Votre place va devenir vacante.
« Êtes-vous chrétien ?» dit le prieur,
pour oser parler à un dignitaire de l'Église.
Si nous sommes chrétiens, oui, sans doute nous le sommes, et de plus nous avons des théologiens parmi nous. Qu'on fasse venir notre chapelain, afin qu'il explique au révérend père les passages de l'Écriture qui ont rapport au sujet.
L'ermite, encore à demi ivre, avait endossé par-dessus son juste corps vert un froc qui le recouvrait à peine. Appelant à son aide le petit nombre de phrases latines qu'autrefois il avait apprises par routine.
« Mon révérend père, dit-il, Deus faciat salvam benignatem vestram, vous êtes le bienvenu dans cette forêt. »«
Et quelle est cette mascarade profane ? » s'écria le prieur.
« Si tu appartiens véritablement à l'Église, tu ferais un acte bien plus méritoire en m'indiquant les moyens de me tirer des mains de ces gens-là, au lieu de faire des singeries et des grimaces comme un jongleur mort. »
En vérité, mon révérend père, je ne sais qu'un moyen de vous tirer d'affaire. C'est aujourd'hui la Saint-André pour nous, et nous recueillons nos dîmes.
Mais non pas sur le clergé, j'espère.
Sur le clergé comme sur les autres fidèles, sur les clercs comme sur les laïcs.
Ainsi donc, sire prieur.
Facite vobis amicos de mammone iniquitatis. Employez les trésors de l'iniquité à vous faire des amis, car il n'y a pas d'amitié qui puisse vous tirer d'affaire plus sûrement que celle-là. J'aime beaucoup les braves et joyeux forestiers, j'espère donc que vous ne vous montrerez pas trop exigeant avec moi. Je ne suis pas non plus novice dans l'art de la vénerie, et je puis donner du corps de manière à faire trembler le feuillage de tous les chênes de la forêt. Allons, mes amis, traitez-moi favorablement.
Qu'on lui donne un corps, dit Locksley. Il faut qu'il nous prouve ce qu'il avance.
Le prieur sonna une fanfare, mais le capitaine lui dit en secouant la tête.
Sire prieur, ce n'est pas là ce qui paiera ta rançon. Et comme le dit la devise du bouclier de certains chevaliers, t'accorder la liberté pour une bouffée de vent, ce serait la donner à trop bon marché. D'ailleurs, je le vois, tu es un de ces novateurs qui, au moyen des ornements des tralalira franchement importés du continent, dénature les anciens airs de chasse anglais. Prieur, la dernière partie de ta fanfare a augmenté de 50 couronnes le prix de ta rançon, pour s'être éloigné des airs anciens, graves et mâles, de la vénerie anglaise.
Ami, dit l'abbé d'un ton de mauvaise humeur, tu es difficile à contenter. Mais j'espère que tu seras plus raisonnable sur l'article de la rançon. En un mot, puisqu'enfin il faut que je brûle un cierge en l'honneur du diable, quelle rançon faut-il que je paye pour avoir la liberté de partir sans avoir 50 de vos archers à mes trousses?
Si nous faisions fixer la rançon du juif par le prieur et celle du prieur par le juif, dit le lieutenant de la troupe à l'oreille du capitaine, qu'en pensez-vous?
Tu as là une singulière idée, lui répondit Locksley, mais elle est bonne. Voilà, juif, approche.
Isaac s'avança.
Regarde ce révérend père Heimer, prieur de la riche abbaye de Jorvaux, et dis-nous quelle rançon nous pouvons lui demander. Tu connais les revenus du couvent, je gage.
Oh, assurément, dit Isaac. J'ai fait plus d'une affaire avec les bons pères, et j'ai acheté d'eux du blé, de l'orge, ainsi que de bons ballots de laine. Oh, c'est une abbaye riche, et ils font bonne chère et boivent les meilleurs vins, ces bons pères de Jorvaux. Ah, si un malheureux proscrit comme moi avait une semblable retraite et des revenus tels que les leurs à l'année et au mois, je donnerais une bonne quantité d'or et d'argent pour sortir de captivité.
Chien de juif ! S'écria le prieur.
Personne ne sait mieux que toi que notre sainte maison est endettée pour les frais de réparation de notre cœur.
Et pour avoir rempli vos celliers des meilleurs vins de Gascogne l'année dernière, interrompit le juif.
Mais ce n'est qu'une bagatelle.
« Ce chien d'infidèle! Il nous calomnie en donnant à entendre que nous ne sommes endettés que pour avoir acheté des vins que nous avons obtenu la permission de boire propter necessitatem et ad frigus depelendum. Ce scélérat circoncis blasphème la Sainte Église, et des chrétiens l'entendent sans lui imposer silence !»«
Tout cela est étranger à notre affaire, dit le capitaine. Isaac, dis-nous ce que nous pouvons lui demander sans enlever poil et peau en même temps. »«
600 couronnes, dit Isaac.
Et le bon prieur peut fort bien les donner à vos seigneuries sans pour cela être assis moins mollement dans sa stalle.
600 couronnes, dit gravement le chef.
Je m'en contenterai. Tu as fort bien parlé, Isaac.
600 couronnes, sire prieur. Vous avez entendu cet arrêt?
Oui, oui, s'écria toute la troupe. C'est un arrêt. Salomon n'en eut pas prononcé un plus sage.
Êtes-vous fou, mes maîtres? Dit le prieur.
Où voulez-vous que je trouve cette somme? Quand même je vendrais le Saint-Ciboire et les chandeliers d'argent du grand hôtel de l'abbaye, j'aurais de la peine à m'en procurer la moitié. Encore faudra-t-il pour cela que j'aille moi-même à Jorvaux. Vous retiendrez mes deux prêtres comme otages.
Ce serait une confiance par trop aveugle, mon cher prieur, répondit Locksley. Tout au contraire, tu resteras avec nous, et tes deux prêtres iront chercher ta rançon. En attendant, tu boiras de bon vin, tu auras de bonnes venaisons. Et puisque tu aimes la chasse, ton pays du Nord ne t'offrira jamais rien de comparable à celle que nous te ferons faire avec nous.
Ou bien, si vous l'aimez mieux, dit Isaac, qui désirait se concilier la bienveillance du chef et de sa bande, j'enverrai chercher à York les 600 couronnes, à valoir sur certaines sommes que j'ai à lui payer, pourvu que le très révérend prieur veuille bien m'en donner quittance.
Il te donnera tout ce que tu voudras, Isaac, et tu nous compteras la rançon du prieur en même temps que la tienne.
La mienne ?
« Ah, brave seigneur, faites attention que je ne suis qu'un pauvre vieillard. Si je vous payais seulement 50 couronnes, le bâton du mendiant deviendrait ma seule ressource pour le reste de ma vie. »«
Le prieur en décidera, répliqua le capitaine. Qu'en dites-vous, père Heimer? Le juif est-il en état de payer une bonne rançon?
S'il est en état?
N'est-ce pas Isaac Djork, dont les richesses auraient suffi pour racheter les 10 tribus d'Israël lorsqu'elles furent emmenées en captivité par les Assyriens? Personnellement, je le connais très peu, mais notre sellerier et notre trésorier ont fait beaucoup d'affaires avec lui. Et le bruit court que sa maison à York est si pleine d'or et d'argent que c'est une honte pour un pays chrétien. C'est un sujet d'étonnement pour tous les fidèles que l'on souffre que ces reptiles dévorants rongent jusqu'aux entrailles, et l'État et l'Église elle-même, par leurs abominables usures et leurs extorsions.
« Un moment, sire prieur, dit le juif,
mettez un frein à votre colère. Je prie votre révérence de ne pas oublier que je ne force personne à prendre mon argent. Et lorsqu'un homme, clerc ou laïc, prince ou prieur, chevalier ou prêtre, vient frapper à la porte d'Isaac, ce n'est pas en termes aussi peu civils qu'il demande à lui emprunter de l'argent. C'est « Mon cher Isaac, voulez-vous bien me faire ce plaisir? Je vous paierai exactement au jour convenu, j'en prends Dieu à témoin. » Ou bien « Mon cher Isaac, rendez-moi ce service, aidez un ami dans le besoin. » Mais lorsqu'arrive le terme fixé, cela change de ton, c'est « Maudit juif, que toutes les plaies d'Égypte fondent sur toi et sur ta race maudite !» Enfin, tout ce qui peut soulever une populace grossière et barbare contre de pauvres étrangers.
« Prieur, dit le capitaine, tout juif qu'il est, il n'y a rien que de vrai dans ce qu'il vient de dire. Finissons-en et fixe sa rançon comme il a fixé la tienne, sans trop le charger cependant.
Il n'y a qu'un latro famosus, latin que je vous expliquerai dans un autre moment, dit le prieur, qui puisse peser dans les mêmes balances un prélat chrétien et un incirconcis. Mais enfin, puisque vous voulez que je fixe la rançon de ce misérable, je vous dirai franchement que vous vous ferez tort à vous-même si vous recevez de lui une obole de moins que 1000 couronnes.
« C'est un arrêt irrévocable, » dit le chef des outlaws.
« Oui, un arrêt irrévocable, » répétèrent les archers. « Le chrétien nous donne une preuve de ses principes religieux. Il se montre plus libéral que le juif. »«
Dieu de mes pères !» s'écria Isaac. « Voulez-vous donc achever de tuer un vieillard déjà accablé par la misère ? Aujourd'hui, aujourd'hui même, peut-être je n'ai plus d'enfants. Et vous voulez encore m'arracher tout moyen d'existence ?»
« Si tu n'as plus d'enfants, lui répondit Heimer, tes dépenses seront diminuées d'autant. »«
Hélas, milord, votre religion ne vous permet pas de savoir jusqu'à quel point un enfant, l'unique objet de nos affections, est cher à notre cœur. Ô Rebecca, fille de ma bien-aimée Rachel, si chaque feuille de cet arbre était un sequin, et que chaque sequin m'appartint, je donnerais volontiers ce trésor pour savoir si tu vis encore. » Et si tu as pu échapper au sort que t'apprêtait ce scélérat de Nazaréen ?
Ta fille n'a-t-elle pas des cheveux noirs ? Dit un des outlaws. Et ne portait-elle pas un voile de soie brodé en argent ?
Oui, oui, répondit le vieillard avec un empressement égal à sa crainte. Que la bénédiction de Jacob se répande sur sa tête. Peux-tu me dire ce qu'est devenue ma fille ? Est-elle à l'abri de tout danger ?
En ce cas, dit l'archer. C'est elle que le fier templier enleva hier en se faisant jour à travers nos rangs. J'avais bandé mon arc pour lui décocher une flèche, mais je craignis de blesser la jeune fille, et je m'en abstins.
« Ah ! S'écria le juif, plût à Dieu que ta flèche eût été lancée, quand même elle aurait dû lui percer le sein, plutôt la tombe de ses pères que la couche de ce sauvage et licencieux templier. Ichobald, Ichobald ! La gloire de ma maison est éteinte. »
Mes amis, dit Locksley, ce vieillard n'est qu'un juif. Néanmoins, son affliction me touche. Allons, Isaac, sois raisonnable. Dis-nous-le sans détour. Le paiement de 1000 couronnes pour ta rançon te laissera-t-il absolument sans ressources ?
Isaac, rappelé tout à coup à son idée dominante, celle de ses richesses, au moment où il était absorbé par son affliction paternelle, répondit, presque sans savoir ce qu'il disait,
« Non, pas absolument.
Eh bien, quoi qu'il puisse te rester, nous ne compterons pas trop rigoureusement avec toi. » Sans argent, tu ne devrais pas plus t'attendre à retirer ta fille des mains de Sir Brian de Bois-Guilbert qu'à abattre un cerf avec une flèche émoussée. Ta rançon sera la même que celle du prieur Heimer. Non, 100 couronnes de moins. Et c'est une perte que je supporterai personnellement. Par là, nous éviterons le reproche d'avoir estimé un négociant juif au même taux qu'un prélat chrétien. Et il te restera 400 couronnes avec lesquelles tu pourras traiter de la rançon de ta fille. Les Templiers aiment l'éclat des pièces d'or autant que celui des plus beaux yeux.
Hâte-toi donc de faire entendre le son de tes couronnes aux oreilles de Bois Guilbert, ou il pourra arriver malheur à ta fille. Tu le trouveras si le rapport de nos vedettes est exact, à la préceptorerie voisine. Camarades, m'approuvez-vous ? Tous les outlaws exprimèrent leur entier acquiescement à la décision de leur chef. Quant à Isaac, délivré de la moitié de ses appréhensions par l'assurance que sa fille vivait et par l'espoir de la racheter, il se jeta aux pieds du généreux chef, et, frottant sa barbe contre ses brodequins, il chercha à baiser le pan de sa casaque verte. Celui-ci, reculant de quelques pas pour se débarrasser de ses mains, lui dit avec mépris « Relève-toi, juif, relève-toi. Je suis anglais, et je n'aime point ces marques d'une servile reconnaissance en usage dans l'Orient. Agenouille-toi devant Dieu, et non devant un pauvre pécheur tel que moi. » « Oui, juif, dit le prieur Heimer, agenouille-toi devant Dieu, représenté par le serviteur de ces autels. Qui sait si un repentir sincère, accompagné de larges dons à la chasse de Saint Robert, n'attireront pas sur toi sa grâce et sa miséricorde, et ne délivreront pas ta fille Rebecca? Je suis vraiment touché en faveur de cette fille, car je l'ai vue à la passe d'armes d'Ashby, et je l'ai trouvée jolie, d'une tournure gracieuse. Or, j'ai quelques crédits sur Brian de Bois-Guilbert, et j'en userai en ta faveur si tu sais t'en rendre digne. « Hélas, hélas !» s'écria le juif. « Je vois de toutes parts la main des oppresseurs levée sur moi. Je suis la proie de l'Assyrien et de l'Égyptien. » « Et quelle autre sort ta race maudite peut-elle espérer ?» dit le prieur. « Car que dit l'Écriture ?« Verbum domini progesserum et sapientia est nulla in eis. » Ils ont rejeté la parole du Seigneur, et ils ont perdu toute sagesse. « Propterea ad abo mulieres eorum exteris. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes aux étrangers. » C'est-à-dire dans le cas dont il s'agit à présent, aux Templiers, et Thésauros, Eorum, Aeredibus, Alienis, et leurs trésors ne passeront pas à leurs héritiers. Isaac poussa un profond soupir, se tordit les mains, et retomba dans son état de désolation et de désespoir. Mais Locksley, le tirant à part, lui dit, « Isaac, réfléchis bien à ce que tu dois faire. Mon avis est que tu te fasses un ami de ce prêtre. Il est vain autant qu'avare. Ou du moins il a besoin d'argent pour fournir à ses profusions. Tu peux sans peine satisfaire sa cupidité, car ne pense pas que j'ajoute foi à tes protestations de pauvreté. Je connais jusqu'au coffre de fer dans lequel tu renfermes tes sacs d'argent. Et quoi ? Ne connaissais-je pas la grande pierre qui est sous un pommier de ton jardin à York, et qui recouvre un caveau voûté ? » Le juif devint pâle comme la mort. « Ne crains rien de moi, continua le capitaine. « Nous sommes d'anciennes connaissances. Ne te souvient-il pas d'un archer malade que ta charmante fille délivra des prisons, à York, que tu gardas dans ta maison jusqu'à ce que sa santé fût rétablie, et auquel, en le congédiant, tu donnas une pièce d'argent ? Tout usurier que tu es, tu n'as jamais placé ton argent à un meilleur intérêt, car cette seule pièce d'or t'en a sauvé aujourd'hui 500.
« C'est donc toi, dit le juif, que nous appelions Dickon Ben de Pau ? « Il me semblait bien que le son de ta voix ne m'était pas inconnu. « Oui, je suis Ben de Bow, et je suis Locksley, et j'ai encore un autre nom qui vaut bien cela. « Mais, mon cher Ben de Bow, tu es dans l'erreur relativement au caveau voûté dont tu parles. « J'atteste le ciel qu'il ne s'y trouve rien que des marchandises, en petit nombre, dont je vous ferai volontiers présent. « Une centaine d'aunes de drap vert de Lincoln, pour faire des pourpoints à tes gens, « une centaine de branches d'ives d'Espagne pour faire des arcs, et autant de cordes de soie, fortes, rondes et d'une excellente qualité. Je t'enverrai tout cela en reconnaissance de l'intérêt que tu me témoignes, honnête Dickon. Mais je t'en prie, mon cher, mon brave Ben de Bow, ne parle pas du caveau voûté. Je serai muet comme un loir, et crois-moi sincère lorsque je te dis que je suis extrêmement peiné de ce qui est arrivé à ta fille. Mais il m'est impossible de rien faire pour elle. Les lances du Templier sont trop fortes pour nos arcs. Elle les disperserait comme le vent disperse la poussière. Si, dans le moment, j'avais su que c'était Rebecca qu'on enlevait, j'aurais pu essayer de la délivrer. Mais maintenant, il faut user de politique. Allons, veux-tu que je négocie pour toi avec le prieur ?
Oui, mon cher Dickon, oui, je t'en prie même, au nom de Dieu, si cela peut servir à me faire retrouver l'enfant de mes entrailles.
Laisse-moi faire, et que ton avarice intempestive ne vienne pas se jeter à la traverse. Je vais travailler pour toi. Alors il s'éloigna. Mais le juif le suivit et ne le quitta pas plus que son ombre. « Prieur Heimer, dit le capitaine, veux-tu bien venir un instant avec moi sous cet arbre ? »
Il est des gens qui disent que tu aimes le vin et le sourire d'une belle, peut-être un peu plus qu'il ne convient à un homme revêtu de ton caractère sacré, sire prêtre. Mais je n'ai rien à voir dans tout cela. On dit assez que tu aimes assez une couple de bons chiens et un excellent coursier. Et il est très possible que tu ne haïsses pas une bourse bien rebondie. Mais je n'ai jamais entendu dire que tu fusses dur et cruel. Or, voici Isaac qui veut bien te fournir les moyens de satisfaire ton goût pour tous ces genres de plaisirs, c'est-à-dire un sac qui contient 100 mares d'argent. Si, par ton intercession auprès de ton ami et allié le Templier, il peut obtenir la liberté de sa fille.
« Saine et sauve, telle qu'elle m'a été enlevée, dit le juif, sans quoi je retire ma parole.
Tais-toi, Isaac, ou je ne me mêle plus de cette affaire. Prieur Heimer, que pensez-vous de ma proposition ?
Elle se présente sous deux points de vue et demande quelques réflexions. Si, d'une part, je fais une bonne œuvre, de l'autre, c'est à l'avantage d'un juif et, dès lors, au détriment de ma conscience. Néanmoins, si l'Israélite veut donner quelque chose de plus pour la construction de notre dortoir, je consens à m'employer pour lui faire recouvrer sa fille. Ce n'est pas une 20aine de mares pour le dortoir.
Tais-toi donc, Isaac.
Ou une couple de chandeliers d'argent pour l'hôtel qui nous arrêteront dans cette affaire.
« Mais songe donc, mon brave Dicon Ben de Beau, dit Isaac qui voulait modérer cet élan de générosité. « Songe donc, honnête juif, bonne bête, bon ver de terre !» s'écria le capitaine, perdant patience.
« Si tu continues à vouloir mettre tes viles richesses en balance avec la vie et l'honneur de ta fille de par le ciel, avant qu'il soit 3 jours, je te dépouille de tout ce que tu possèdes dans ce monde. »
Isaac poussa un gémissement et garda le silence. « Et quelle garantie recevrai-je de l'exécution de vos promesses ?» demanda le prieur.
« Si Isaac réussit par votre médiation, répliqua le proscrit, et qu'il ne vous paie pas la somme convenue en bel et bon argent, je jure par Saint-Hubert que je lui ferai rendre un tel compte qu'il préférerait payer 20 fois cette somme.
« Eh bien, juif, dit Heimer, puisqu'il faut que je me mêle de cette affaire, donne-moi tes tablettes.
« Non, arrête, j'aimerais mieux jeûner 24 heures que de faire usage de la plume d'un juif.
« Mais où en trouver une ?» « Si les pieux scrupules de votre révérence, dit le capitaine, ne vont pas jusqu'à vous interdire l'usage de l'écritoire du juif, je vous aurai bientôt procuré une plume. »
À ces mots, bandant son arc, il décocha une flèche contre une noix sauvage qui passait au-dessus de leur tête, garde avancée d'une phalange de ses compagnes qui dirigeaient leur vol vers les marais éloignés et solitaires d'Olderness. L'oiseau vint tomber à ses pieds en tournoyant.
« Tiens, prieur, ajouta-t-il. « Voilà de quoi fournir de plumes tous les moines de Jorvaux pendant 100 ans, car ils ne se mêlent guère d'écrire des chroniques. »
Le prieur s'assit et écrivit à loisir une lettre à Brian de Bois-Guilbert. Après l'avoir soigneusement cachetée, il la remit au juif en lui disant « Ceci te servira de sauf-conduit jusqu'à la préceptorerie de Templestowe. Et probablement, du moins je le pense, te procurera la liberté de ta fille, si de ton côté tu as soin de l'appuyer d'offres avantageuses. » Car, ne t'y trompe pas, notre brave chevalier de Bois-Guilbert est membre d'une confrérie qui ne fait rien pour rien.
Maintenant, prieur, dit Locksley, je ne veux pas te retenir plus longtemps. Seulement, tu vas donner aux Juifs une quittance de 600 couronnes, prix fixé pour ta rançon.
Je l'accepte pour banquier, et si j'apprends qu'il éprouve la moindre difficulté pour faire admettre cette somme dans ses comptes, je veux que Sainte-Marie me refuse la porte du paradis si je ne mets le feu à ton abbaye. Dussé-je être pendu 10 ans plus tôt. »
Ce fut de plus mauvaise grâce encore qu'il n'en avait mis à écrire sa lettre à Bois-Guilbert que le prieur écrivit la quittance qui déchargeait le juif de 600 couronnes par lui avancées pour le paiement de sa rançon, de laquelle somme il lui serait tenu compte en temps et lieu.
« Maintenant que ma rançon est payée, dit le prieur Heimer, je vous demande la restitution de mes mules et de mon palefroy, de mes pierreries, bijoux et vêtements. » En un mot, de tout ce dont on m'a dépouillé, ainsi que la liberté des révérends frères qui m'accompagnent.
Vos révérends frères, dit Locksley, seront tout de suite remis en liberté, sire prieur. Il serait injuste de les retenir. Vos chevaux et vos mules vous seront également rendus avec l'argent nécessaire pour vous rendre à York, car il serait cruel de vous priver des moyens de voyager. Mais quant aux bagues, bijoux, chaînes d'or et autres objets de cette espèce, « il faut que vous sachiez que notre conscience est trop timorée pour que nous exposions un homme aussi vénérable que vous l'êtes, et qui doit être mort aux vanités de ce monde, à la trop dangereuse tentation d'enfreindre la règle de son ordre en se parant de ses futiles et mondains ornements. Prenez bien garde à ce que vous faites, mes chers maîtres,
avant de porter la main sur le patrimoine de l'Église. Ces objets sont inter res sacras, ils sont au nombre des choses sacrées, et je ne sais ce qui arriverait si des mains laïques osaient y toucher. J'aurai soin de les mettre à l'abri de toute profanation, dit l'ermite de Copmanhurst, car je les destine à mon propre usage. Ami ou frère, dit le prieur peu satisfait de cette singulière manière de lever ses scrupules, si tu es réellement dans les ordres, je t'engage à réfléchir à ce que tu auras à répondre à ton official concernant la part que tu as prise aux événements de ce jour. Ami prieur, répliqua l'ermite, il faut que tu saches que j'appartiens à un petit diocèse dont je suis moi-même l'official, et que je me soucie tout aussi peu de l'évêque d'York que de l'abbé de Jorvaux, et du prieur et de tout le couvent. « Tu es tout à fait irrégulier, dit le prieur. Tu es un de ces hommes profanes et corrompus qui, s'étant revêtus du sacré caractère sans une vocation sincère, profanent le saint ministère et mettent en danger les âmes de ceux qui se rangent sous leur direction, lapides propane condonantes iis, leur donnant des pierres au lieu de pain, comme dit la Vulgate. Oh, s'il n'avait fallu que de mauvais latin pour me rompre le crâne, il n'aurait pas résisté si longtemps. » Je dis que débarrasser un tas de prêtres vains et orgueilleux comme toi de leurs bijoux et de leurs affiquets, c'est prendre à bon droit les dépouilles des Égyptiens. « Tu n'es qu'un clerc de grand chemin, » dit le prieur, tout bouffi de colère. « Excommunicabo vos !»« Tu ressembles bien toi-même à un voleur et à un hérétique, » répliqua l'ermite indigné. « Je n'empocherai pas ainsi l'affront que tu ne crains pas de me faire devant mes paroissiens, quoique je sois ton révérend frère. » « Ossa eius per fringam, je te romprai les os, comme dit la Vulgate. »« Oh là !» s'écria le capitaine. « Faut-il que des révérends prêtres en viennent à ces extrémités ? Toi, prieur, si tu n'as pas fait ta paix avec Dieu, ne provoque pas davantage notre chapelain. Et toi, ermite, laisse à ton tour s'éloigner en paix le révérend père en Dieu, comme un homme qui a payé sa rançon. » Les archers séparèrent les deux prêtres courroucés, qui continuèrent néanmoins à crier et à se dire des injures en mauvais latin, que le prieur débitait avec plus de facilité et l'ermite avec plus de véhémence. Enfin, le prieur, reprenant son sang-froid, ne tarda pas à s'apercevoir qu'il compromettait sa dignité en se querellant avec le chapelain de ses outlaws. Et les deux frères qui composaient sa suite étant venus le joindre, il partit avec beaucoup moins de pompe et d'une manière plus apostolique, du moins en ce qui avait rapport aux choses périssables de ce monde, que lorsqu'il était arrivé. Il ne restait plus qu'à demander aux Juifs quelque sûreté pour la rançon qu'il avait à payer, tant pour le prieur que pour lui-même. Il donna donc un billet payable au porteur, revêtu de son sceau, sur un de ses co-religionnaires à York, pour 1000 couronnes et quelques marchandises qui y étaient spécifiées. « Mon frère Sheva, dit-il en poussant un profond soupir, « a la clé de mes magasins. Mais celle du caveau voûté ?» lui demanda tout bas le capitaine. « Non, non, Dieu m'en préserve. Maudite soit l'heure où ce secret a été connu de quelqu'un. »« Il est en sûreté avec moi, » dit Locksley. « Aussi vrai que ce papier représente la somme qui s'y trouve mentionnée. »« Mais réponds-moi, Isaac, es-tu mort ? As-tu perdu la tête ? Et 1000 couronnes à payer te causent-elles une si grande douleur que tu oublies le danger que court ta fille ?» Le juif sortit tout à coup de son abattement. « Non, Deacon, non, je veux partir. Adieu, toi que je ne saurais appeler bon. » mais que je n'ose ni ne veux appeler méchant. » Cependant, avant qu'Isaac se mît en route, le chef des Outlaws lui donna ce dernier conseil. « Isaac, sois libéral dans tes offres, et n'épargne pas ta bourse quand il s'agit de sauver les jours et l'honneur de ta fille. Crois-moi, l'or que tu chercheras à épargner en cette occasion te causera dans la suite autant de tourments que si on te le versait tout fondu dans le gosier. » Isaac, poussant de nouveau un profond soupir, convint de la justesse de cette observation, et se mit en route, accompagné de 2 archers qui devaient lui servir de guide et d'escorte, jusqu'à ce qu'il fût hors de la forêt. Le chevalier noir, qui avait pris un vif intérêt à tout ce qui venait de se passer, s'avança alors pour prendre congé du capitaine et de sa bande, et il ne put s'empêcher de lui témoigner sa surprise de l'ordre et de la discipline qu'il voyait régner parmi des hommes abandonnés à eux-mêmes et qui s'étaient soustraits au joug comme à la protection des lois de la grande société. « Sire chevalier, répondit Locksley, on peut quelquefois trouver de bons fruits sur un mauvais arbre, et de mauvais temps ne produisent pas toujours du mal sans quelque mélange de bien.
parmi les hommes que les circonstances ont entraînés dans ce genre de vie, qui, je dois l'avouer, est tout à fait illégal, il s'en trouve plusieurs qui désirent mettre de la modération dans la licence qu'ils procurent, et d'autres peut-être qui regrettent d'être obligés de l'adopter. Et je ne puis douter que c'est à un de ces derniers que je parle en ce moment. Sire Chevalier, nous avons chacun notre secret. Vous êtes parfaitement libre de porter sur moi tel jugement que vous croirez convenable, comme je puis faire sur vous telle conjecture que bon me semblera. Mais il est possible qu'aucune de nos flèches ne frappe le but. Au surplus, je ne vous demande pas votre secret. Ne trouvez donc pas mauvais que je garde le mien. Pardon, brave Outlaw, votre reproche est juste. Mais il est possible que nous nous revoyions plus tard et avec moins de mystère de part et d'autre. En attendant, j'espère que nous nous séparons amis. En voici ma main pour garant, et je vous la présente comme la main d'un loyal Anglais, quoique pour le moment ce soit celle d'un outlaw. Et voici la mienne en retour. Je la regarde comme honorée de presser la vôtre. Car celui qui fait le bien, quoiqu'il ait un pouvoir illimité pour faire le mal, mérite des louanges non seulement pour le bien qu'il fait, mais aussi pour le mal qu'il s'abstient de faire. Adieu, généreux et brave outlaw. Ils se séparèrent ainsi, très satisfaits l'un de l'autre, et le chevalier au cadenas, sautant sur son excellent coursier, s'enfonça dans la forêt.